Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Batteur sans limite. Aujourd'hui, je suis accompagné de Franck Agulon. Salut Franck.
Coucou, ça va?
Yes, super, et toi?
Super Aurélien, plein de forme.
Yes, et donc tu
Malgré le décalage horaire.
Oui, malgré le décalage. Et tu es donc batteur, tu es pédagogue et aussi professeur dans plusieurs écoles, dans pas mal d'écoles. Et tu as écrit une méthode, et je viens d'apprendre deux méthodes, une autre qui va sortir en septembre, on va en parler tout à l'heure. Donc on va parler de ta pédagogie, de ton travail de pédagogue, du drum book donc qui est déjà sorti, et du practice book qui va sortir, on va en parler, on va expliquer ce que c'est, et aussi de l'histoire de la batterie. Et alors, avant qu'on enchaîne avec ces sujets, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire dans quel groupe tu joues en ce moment ?
Alors, je suis Franck Agulon, je suis né dans le sud de la France et je fais de la batterie depuis pas mal d'années. Je suis professionnel depuis l'âge de 18 ans. J'ai étudié au Centre musical et créatif de Nancy en 89-90. Ensuite, j'ai enseigné là-bas et je suis resté dans l'est de la France. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer beaucoup, à rencontrer des professeurs à l'école qui m'ont proposé après des remplacements à Paris. Puis après, j'ai commencé à jouer à Paris avec Stefano Di Battista, Flavio Boltro, Mireille Lagrène, Sylvain Luc, Pierre de Bettman, Pierrick Pedron, Eric Lénini, Thomas Dutronc, Yael Naïm, etc., etc. Plein de gens différents. Et en ce moment, voilà, mon projet principal, c'est que je prépare le nouvel album d'Eric Lénini. J'en viens de sortir un disque aussi avec une chanteuse qui est mon épouse, qui s'appelle Valérie Gracher, et avec laquelle on tourne en trio avec Jean-Yves Vion. Je joue aussi avec Gauthier Laurent et Damien Prudhomme dans un trio jazz. Avec Diego Humbert aussi, qui est bassiste et contrebassiste. On a fait 4 ou 5 albums ensemble. Et là, on prépare un projet pour la rentrée d'un album plus électrique en septet, avec David Elmalek, Pierrick Pedron, Quentin Gomari, Diego, Pierre-Alain Gualch au piano. Pierre-Alain Gualch avec qui j'ai beaucoup, beaucoup joué aussi depuis une vingtaine d'années. Sinon, j'enseigne au MAI à Nancy, au Music Academy International, à l'école de Didier Lockwood, le CMDL. Je suis intervenant aussi dans le cursus de Frédéric Rimbert du Drum Lab, le cursus avancé. J'interviens aussi pour remplacer Dre Palmert au CNSM. J'interviens à Tous en scène régulièrement, au SIAM de Bordeaux très régulièrement aussi. J'interviens au Conservatoire de Nancy et dans pas mal d'autres conservatoires pour présenter justement le Drum Book, qui est donc un bouquin qui est sorti il y a 2 ans, en 2014, et qui était un peu une synthèse de mes cours de ces 20 dernières années. Et ça fait plusieurs fois que des amis, des batteurs me disaient « Vas-y, il faudrait que tu te lances à faire un bouquin, mais c'est difficile de savoir quelle matière est fondamentale, quelle matière est entre guillemets la plus... je dirais pas original parce qu'il y a rien d'original dedans, mais la façon de présenter les choses, on va dire, est-ce qu'elle soit différente de ce qui a déjà été fait. Et c'est Didier Ottaviani, donc il m'a dit, mais moi je te connais bien, ça fait longtemps que j'étudie avec toi, je te donne un coup de main pour synthétiser tout ça, je suis partant. Donc ça nous a pris 1 an à préparer tout ça. On a mis en page, on a tourné des vidéos pour illustrer le bouquin, on a parlé des concepts, de la lecture, du jazz, de la technique, on a fait quelque chose du mieux qu'on ait pu, évidemment, comme quand on fait quelque chose de personnel, comme on prépare un peu son bébé. Et puis les retours du drum book sont très bons, au-delà de toute espérance. Donc on a réussi à faire un bouquin qui plaît pour le moment. Voilà, on est très content de ça. Et à la rentrée, donc en septembre 2016, sort le Practice Book, qui est un bouquin un petit peu plus technique, on va dire, qui se voudrait être un peu un stick control, sauf que le stick control était novateur, donc il inventait vraiment beaucoup de doigtés, il mettait sur le papier des doigtés, enfin il mettait quelque chose qui avait jamais été fait. Là, le Practice Book, ça se voudrait un peu une espèce de stick control, mais avec les pieds aussi, voilà. Simplement un mélange entre four-way coordination, en plus simple quand même, parce que four-way coordination, c'est quand même bien, bien, bien poussé, avec des indépendances, donc le Practice Book, du travail de mécanique, avec toujours les pieds qui sont là, voilà, on rajoute, et au milieu, il y a un peu une suite du drum book avec des concepts qui sont développés dans le drum book, qui sont réutilisés à nouveau dans le practice book. Ça, c'est un peu. Et à la fin, on a voulu, entre guillemets, faire quelque chose d'un peu plus premier degré, relax, parce que la matière, au début, elle est vraiment très mécanique. Et même si on voulait, enfin, c'est difficile de parler de mécanique en étant ultra ludique. Donc, on s'est dit, à la fin du bouquin, ça serait bien de mettre quelque chose d'un peu plus ludique. Donc, j'ai appelé plein de copains batteurs pour leur dire, est-ce que ça vous intéresserait de répondre à 1 ou 2 questions pour le practice book? Et ils m'ont tous dit oui, super, bonne idée. Donc j'aurais demandé à chacun quel conseil vous donneriez pour améliorer son tempo. et quelle est votre routine quand vous vous asseyez à l'instrument. Et j'ai eu plein de réponses très, très, très différentes qui sont une source d'inspiration incroyable. J'ai relu plusieurs fois le dossier. C'est vraiment impressionnant. C'est super. Je suis très content de cet aspect-là aussi du Practice Book qui sort en septembre, donc qui sera disponible sur le site de la librairie de la Rock, le même site que le Drum Book. Donc, en septembre.
Ok. Voilà. D'accord. Alors ça va, j'imagine que tu t'ennuies pas trop. T'as un palmarès, c'est assez hallucinant. Et non seulement des artistes avec lesquels tu travailles, mais aussi avec lesquels tu as travaillé, mais les écoles dans lesquelles tu enseignes. Et tu t'es pas limité à un artiste ou à une école, hein. Je pense que ton agenda ne doit pas
être assez... Là, j'ai fait une synthèse, on va dire, des gens avec qui j'ai collaboré. C'est pas tous les gens en même temps, c'est les gens avec qui j'ai travaillé par période. Et les écoles, c'est pareil, c'est des interventions à la Musique Académie Internationale. J'y vais pas mal de fois dans l'année. Au CMDL, j'y vais quelques fois. À l'école de Frédéric Rimbert aussi. Et les autres, j'interviens une à deux fois maximum par année. Mais j'ai toujours été un musicien d'un côté et pédagogue de l'autre, parce que premièrement, moi, je suis issu de ce format-là, on va dire. J'ai eu des profs qui ont beaucoup compté pour moi, qui ont donné tout ce qu'ils savaient, et je viens vraiment de ça. J'ai étudié la musique et on m'a beaucoup. Je passe par le réseau. Enfin, j'ai grandi avec le réseau de formation. Donc, je me régale à le faire, et je trouve que c'est un juste retour que de si je peux aider d'autres musiciens à se développer en donnant aussi des cours. Et j'adore ça en plus. Vraiment, j'ai besoin de donner des cours. C'est un bel équilibre. C'est une source d'inspiration aussi d'avoir des batteurs, voir comment ils appréhendent les choses, et puis de les voir jouer, c'est toujours très inspirant, parce qu'il y en a qui jouent super bien, et je leur pique tout leur truc, en plus. Je leur pique tout leur plan.
Ah oui, ok, génial. Et alors, tu disais que tu as été formé au Centre Musical et Créatif de Nancy, c'est bien ça?
Tout à fait.
Ouais. Mmh. Et donc, il y a le MAI aussi qui est à Nancy, dans lequel tu...
C'est la même école, en fait, ça a changé de nom, c'est la même école.
D'accord. Ok.
Voilà, et moi, quand j'y étais, j'avais cours avec André Charlier, avec Félissa Baléco, avec Alain Gozzo, Denis Palatin, Julien Charlet, et tout un tas d'autres batteurs également. Et c'est des gens qui ont beaucoup compté pour moi, quoi. Donc, moi, je me disais, si je peux aussi, après, faire passer la flamme et faire travailler d'autres gens, voilà, ça paraissait important pour moi.
D'accord. Et alors, à 18 ans, quand tu as commencé, tu étais tout de suite professionnel, hein, c'était tout de suite en étant pédagogue, du coup, au MAI?
Des concerts, d'abord. Dans le sud de la France, avant de monter, je jouais 3, 4, 5 fois par semaine. Je jouais beaucoup dans le sud, dans des piano-bars, et ça, j'étais quasiment pro, déjà. Et en fait, je suis monté étudier pour me dire, je me suis dit, faut aller plus loin, là, avant, sinon tu vas te retrouver, entre guillemets, pris dans l'énergie du fait que tu joues beaucoup, tu as des répétitions, tu es pris, puis tu vas jamais prendre le temps, t'es jeune encore, donc prends le temps peut-être de travailler, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, quoi, après tu seras occupé. Et donc je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et quand je suis monté à Nancy, après, l'école m'a proposé d'enseigner, c'est ce qui m'a permis de faire un peu le bond entre ma vie de d'étudiant et puis d'un coup de devenir pro. Ça m'a évité de faire l'armée à l'époque, donc j'étais bien content qu'ils me proposent le poste. Au début, j'ai enseigné 3 ou 4 jours par semaine, et puis après 2, puis 1, puis 2 ou 3 jours par mois, puis 2, parce que les concerts ont pris le pas dessus, quoi.
Ça marche. Et alors, est-ce que toi-même tu as un professeur maintenant?
Pas en ce moment, mais je serais preneur, on va dire. Je cherche un peu des gens qui pourraient m'analyser, voir un peu, changer des choses de fond, des détails qui pourraient aider à améliorer des choses bien précises. Mais comme je te disais, le fait de donner des cours, de croiser, moi je suis vraiment super pote avec Fabrice Moreau, avec Raphaël Chassin, avec Dre Palmertz, avec Arnaud Renaville, avec plein de batteurs, et on échange beaucoup. Donc je sais que quand je les vois jouer, on discute, on s'influence les uns les autres, c'est clair, quoi. J'ai besoin d'apprendre encore, et c'est vrai qu'il y a des choses comme la position, où j'aimerais bien avoir un retour d'un Freddy Gruber ou d'un Gary Chaffee ou ce genre de prof qui me dit, voilà, attention, ton pouce, il faut le mettre plus comme ça, ton avant-bras, il faut le mettre plus comme ça, ça pourrait t'aider. Donc là, ça, en ce moment, je ressens pas le besoin d'avoir des cours de technique, on va dire. Ça s'améliore toute ma vie, je serai jamais Nicolas Hutta, et ça, j'en ai fait mon deuil. Mais par contre, à mon niveau à moi, je sens que ça serait bien aussi d'améliorer certains points de détail, mais là, il faudrait que je trouve la bonne personne.
D'accord. Et t'as une idée de qui ce serait? Tu citais Gary Chaffee notamment, ou Avant, on parlait, juste avant cet appel, on parlait de Dom Famularo. Est-ce que tu as une idée de qui ça pourrait être, qui pourrait être justement un
Non.
mentor ou un...
Non, pas en ce moment.
Ouais.
J'ai des mentors musicaux. J'ai des gens qui m'influencent beaucoup, comme Mark Juliana, Marcus Gilmour, Eric Harland, Chris Dave, Steve Jordan, et d'autres, qui sont des mentors musicaux. Mais là, on va dire, ça serait presque un mécanicien qu'il faudrait, quoi. Vraiment, quelqu'un qui, même s'il joue pas forcément de la batterie très bien, ou qui est vraiment un pédagogue. Dans l'histoire, il y a eu des pédagogues qui n'étaient pas des excellents batteurs ou qui sont pas connus comme des batteurs, mais qui étaient vraiment des pédagogues incroyables. Et c'est vrai que je serais preneur si je trouvais la personne un peu comme ça. Donc, je suis toujours un peu à la recherche de ça pour améliorer les détails. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé dans ce sens de mentor, on va dire.
Ouais,
Des
ouais.
mentors musicaux, j'en ai plein, ça c'est sûr. Mais pour la mécanique, j'ai pas encore trouvé.
Ça marche. Et alors, il y a quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, c'est que déjà que tu es un très bon pédagogue et avec l'expérience que tu as et l'investissement et l'énergie que tu as par rapport à ça, enfin, il n'y a aucun doute. Et notamment que tu savais toujours trouver le bon exercice, le bon conseil quand on est face à un challenge, quand on est bloqué face à quelque chose. Et comment tu fais pour être certain de travailler le bon exercice quand tu es face à une difficulté?
Ouais, malheureusement, j'en suis pas certain.
Okay.
Mais disons que l'expérience fait que j'essaye de toujours trouver qu'est-ce qui pourrait faire que la personne que j'ai en face de moi se développe. Donc j'essaye de prendre en compte ses capacités, ses forces, ce que je ressens être comme étant ses forces et comment les développer et mettre le doigt sur s'il y a des détails qui me semblent bloquer la personne, bloquer la mécanique ou bloquer ça, si ça bloquer le mental, les mains, enfin voir s'il y a des fondamentaux qui sont pas suffisamment acquis, mais c'est plutôt vraiment pour moi c'est vraiment un aspect pédagogique dans le sens où des fois je parle de choses à des batteurs qui ont une meilleure technique que moi, on va dire, ou qui ont un meilleur tempo, ou que mais c'est le pédagogue qui parle, c'est pas le batteur, donc c'est ça qui est important, c'est je me mets en position d'essayer d'analyser les gens que j'ai face à moi et avec l'expérience que j'ai acquis au fil du temps, j'essaye de trouver les exercices qui peuvent les aider à aller un peu plus loin. Mais j'en suis pas sûr, ça serait génial d'en être sûr. J'essaye, voilà. Après si toi on t'a dit que ça fonctionnait, tant mieux pour moi, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Je suis content de l'entendre par voix par le biais d'autres personnes, c'est les retours qu'on a avec le temps, mais j'essaye voilà de percevoir ce qui pourrait aider la personne à aller un peu plus loin dans son univers personnel, quoi.
Ouais, d'accord. Et alors toi, pour ouvrir ton univers personnel justement, est-ce que tu sens qu'en ce moment tu as un challenge? Et le challenge peut être autant, on a pas mal parlé de mécanique, ça peut être autant par rapport à la mécanique que aussi peut-être par rapport au mental. Peut-être qu'il y a un musicien avec lequel tu veux absolument travailler, mais t'oses pas le contacter ou quelque chose comme ça. Est-ce que t'as un challenge en ce moment?
Non, c'est pas une période, c'est pas ce type de période en ce moment. Là, je suis allé au bout du practice book, on a fini le drum book, je me suis mis vraiment j'ai, et avec Didier, on a beaucoup travaillé pour faire avancer les choses au niveau du practice book, le synthétiser. Moi, j'ai fait quelques enregistrements sur lesquels j'ai pris mon temps pour trouver les sons, mais c'est, on va dire, c'est plusieurs activités menées de front en même temps, mais il y a rien de spécialement de très très précis qui me prend toute mon énergie en ce moment. Ça serait non, c'est un ensemble de choses dans lesquelles il faut s'investir par période donnée, sur chaque jour d'une semaine, 4-5 jours, se donner à fond sur un truc bien précis. Mais au-delà de ça, non, il n'y a pas de, c'est pas un point ou un autre où je me dis, il faudrait que ceci, cela, en ce moment, c'est, je sais pas si c'est très clair, mais.
Ouais, oui, en ce moment, il n'y a pas cette difficulté particulière. J'ai aussi l'impression que tu sors, justement, que tu avais ce challenge récemment, et que t'en sors parce que, avec le practice book, quoi. Que là, t'es à l'époque, au moment où c'est fini, il va bientôt sortir, et que tu sors certainement de ce moment, je sais pas si je me trompe, hein, si c'est juste, mais.
C'est ça, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont, une fois que ça sera fait le practice book, je vais passer à un autre mode de quête ou d'investissement dans la musique, peut-être des projets ou voilà. Mais là, le practice book, ça m'a pris beaucoup d'énergie physique, mentale, de temps, de relecture, de travail, de synthèse, d'appeler les gens. Enfin voilà, oui, ça occupe beaucoup. Hein.
Ouais, donc, oui. Je te fais confiance, oui. D'accord. Et alors, juste avant, tu parlais du son, du travail du son. Et quelque chose que je te revois très souvent faire, c'est poser des petites percussions ou des petites cymbales sur les tomes ou sur la caisse claire, ou alors aussi des petites percussions sur les cymbales aussi. Et c'est quelque chose que je vois peu d'autres batteurs faire. Et ça a l'air de vraiment te parler. Est-ce que tu peux nous en parler?
C'est un peu, j'ai toujours aimé moi le son que ça a créé en fait. Donc des batteurs comme Chris Dave le font beaucoup, Eric Harland le fait beaucoup. Donc ça me plaît parce que ça permet d'obtenir des sons en utilisant des choses communes, on va dire des grooves assez communs. Ça permet d'obtenir des choses originales dans la texture. Vu que c'est dur d'être original en ce moment dans la mécanique, de dire je vais inventer des choses, je vais inventer des doigtés, des plans. Moi, j'ai pas l'impression d'inventer quoi que ce soit. C'est difficile. Par contre, le fait de poser des instruments qui sont uniques à des endroits bien précis et de mélanger tout ça, on obtient une texture sonore qui est, sans être peut-être pas unique, qui est propre en tout cas, qui est spécifique à ce que j'ai fait à ce moment-là. Donc c'est surtout dans ce sens-là, ça me fait penser aux percussions, on va dire, du monde en plus. Je suis ni hindou, ni africain, ni brésilien, ni cubain, ni quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai des percussions qui peuvent venir de différents pays, de différentes cultures. Et le mélange de j'ai l'impression d'obtenir quelque chose, entre guillemets, d'original. Original, c'est pas exactement le mot, mais qui m'est propre, on va dire. Le fait de poser un truc africain sur la charlée en même temps qu'un gong sur le tombas et une petite percussion sur la caisse claire. Là, je me crée un univers qui me permet d'être, entre guillemets, personnel.
Oui, forcément, tu ouvres de nouvelles portes. Et en fait, on voit souvent des batteries hybrides, donc avec ou alors des triggers, ou alors je ne sais plus comment s'appelle cet ensemble de pads. Roland en a fait un, le Octopad, il me semble, avec plein de pads comme ça qui permettent donc de déclencher des sons électroniques. Et c'est un peu dans la même idée, seulement on est dans l'électro. Est-ce que toi,
C'est ça.
je t'ai jamais vu utiliser des trucs électroniques comme ça? Tu le fais?
Non, je dirais pas que ça m'intéresse pas. C'est que je suis pas compétent pour le moment. J'ai jamais eu ça dans les pattes. Mais quand je vois des batteurs le faire, je trouve ça super. Je trouve ça passionnant. Mais c'est vrai que pour le moment, je m'amuse bien avec mes petites percus naturelles, on va dire.
Ouais.
Mais c'est vrai que chaque fois que j'ai une batterie électronique dans les pattes, je passe 4 heures dessus à essayer tous les sons. C'est fantastique. Hein. Mais quand ça me concerne, que je fais des projets, j'ai plutôt voilà tendance à utiliser un kit acoustique sur lequel j'essaye de rejouer des influences indiennes, africaines, cubaines, brésiliennes, déjà au niveau des sons, des doigtés, des patterns, etc. Plus des petites percussions mélangées comme ça, un peu de façon, je dirais pas aléatoire, parce qu'elles sont pas posées n'importe où, mais mélangées un peu comme ça change chaque fois. Et ça, on obtient des kits un peu hybrides, mais naturels, pas électroniques. Mais c'est juste parce que je ne suis pas habitué et que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir des pads électroniques. Parce que quand je vois quelqu'un le faire, je trouve ça super, hein. Je trouve ça
Ouais.
vraiment fantastique.
Tout comme le fait de poser une percussion sur une peau, ça permet, ça ouvre des nouvelles portes. Et ouais, avec l'électronique, on a effectivement là une infinité de sons possibles. Là, on fait, c'est impressionnant ce
Ah oui,
qu'il est possible de faire.
là c'est les trucs électroniques, c'est la folie. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que voilà, jusqu'à présent, moi je m'amuse à poser des chiffons, à mater le son, à mettre des percus sur une batterie acoustique parce que ça, c'est là d'où je viens. J'ai jamais joué en concert ou en studio sur des batteries électroniques, sauf quand je vais quelque part qu'il y en a une où là je passe des heures et des heures et je me régale. Mais de moi-même, quand j'ai un concert à faire ou quoi que ce soit, je suis toujours sur une batterie acoustique. Donc voilà, c'est pas parce que j'aime pas, c'est parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Donc,
Très bien. Et alors maintenant, j'aimerais parler un petit peu plus d'histoire de la batterie. Et notamment, je t'ai entendu partager dans une vidéo le fait que, à partir du moment où il y a eu l'amplification pour les autres instruments, les batteurs n'ont plus eu besoin de mettre la grosse caisse sur tous les temps pour soutenir les noirs. Et que donc, ils ont commencé à diversifier des rythmes. Il y a des nouveaux patterns qui sont nés, des nouvelles choses qui ont été créées. Et ça m'a marqué. Et tu semblais être très intéressé par ce côté histoire aussi, le côté historique de la batterie. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a été transmis dans ta formation, ou est-ce que c'est plutôt une passion, quelque chose que tu cherches par toi-même?
c'est un mélange des deux. C'est un mélange du fait de j'aime bien comprendre pourquoi les batteurs sont été amenés à changer leur jeu, qu'elle commence à évoluer, comment on est passé des noirs à des croches, qui a le qui essayer de savoir qui est le premier à avoir fait le shabada sur une cymbale, comment est née l'indépendance, où est-ce qu'on retrouve les premières traces d'indépendance dans la culture des percussions, quelles percussions font appel à quel type d'indépendance, dans quel pays, quelle est la métrique jouée par les pygmées en Afrique, pourquoi, est-ce que le djembé, toutes les percussions, on va dire, digitales, comment ça fonctionne. Ensuite, la batterie, c'est une des premières où il y a eu vraiment les pieds qui ont été mis en place, et donc c'était très nouveau pour les percussionnistes, on va dire. Avant, la percussion est plurimillénaire au niveau de la culture, mais par contre, la batterie a vraiment fait naître ce truc d'indépendance, de coordination avec les pieds. Ça n'existait pas. D'où le fait que ça a évolué très vite, on va dire, en 50 ans. On est passé de noir et de charlé sur 2 et 4 à Tony Williams, quoi. Donc, même pas en 50 ans, en 40 ans, quoi.
Ouais.
Donc, moi, j'avais vu des vidéos de Steve Smith qui en parlait, qui était passionné par ça. Donc, après, j'ai regardé des sites où les gens en parlaient. J'ai écouté, du coup, j'ai lu les ouvrages de George Pazinski sur les origines enfin, les origines du développement de la batterie jazz de 1890-1900 à nos jours. Donc, du coup, ça m'a marqué. J'aimais bien parce que je trouvais ça intéressant. Du coup, j'en reparle un peu de façon synthétique, hein, mais je trouve ça intéressant de savoir. Quels ont été les batteurs qui, nous, maintenant, on est dans une situation, on est en 2016, où on transcrit Elvin Jones, Roy Haynes, Dave Wakel, Steve Gadd, mais si on réfléchit, les tout premiers batteurs qui ont pris la décision de jouer des croches, de jouer la syncope, il y a certains batteurs qui sont passés ils ont vraiment inventé un style, inventé un vocabulaire qui n'existait pas. Et ça, je me dis, qu'est-ce qui fait comment ça se passe, qui est le premier batteur à avoir joué, le deuxième triolet au charlet sur un accompagnement. Puisqu'on parle de jazz, puisque à ce moment-là, la batterie n'était que jazz, on va dire. Au tout les débuts de la batterie, c'est que du jazz. Il n'y avait pas de rock. C'est venu après, on va dire. C'est venu dans les années 50. La batterie, c'est vraiment un instrument qui est issu du jazz. Et elle a été utilisée que dans le jazz au début. Ensuite, ça s'est développé dans d'autres styles. Mais au départ, c'est une batterie l'instrument est né dans le jazz, on va dire. Donc, elle était jouée que en jazz. Et après, quel premier batteur à avoir joué un pattern binaire? Voilà, ce genre de questions, je trouve ça intéressant. Donc, du coup, quand je trouve des réponses, ben, j'en fais part aux gens autour de moi. Puis, il y en a qui, du coup, il y en a qui ont des anecdotes sur le premier batteur à avoir joué le shabada sur la ride. Pourquoi? Comment? Enfin, tout. Je trouve ça passionnant. C'est mon instrument. Moi, j'aime jouer de la batterie. J'aime voir des batteurs jouer. Et comment la mécanique s'est développée au fil du temps, parce que c'est quand même vraiment un instrument, contrairement au piano, au violon, à la contrebasse, enfin, c'est un instrument ultra récent, enfin, c'est allé très vite, ça s'est développé en même pas, on va dire, en une centaine d'années, ça allait très très vite, quoi. Ça allait super vite par rapport au clavecin, il y a des instruments qui ont 300, 400, 500, et les percussions, ça date de plusieurs milliers d'années, mais l'instrument batterie, c'est super récent. Donc, je trouve que c'est passionnant de voir la vitesse à laquelle ça évolue.
Oui, c'est vrai. C'est marrant de voir les percussions étaient un des premiers instruments. Si c'est pas le premier, de taper sur quelque chose, c'était une des premières choses et comme un moyen de communication. Et c'est marrant de se dire qu'effectivement, bien que ce soit un des instruments le plus, enfin, que les percussions soient un des instruments les plus vieux, la batterie est un des plus récents. C'est marrant d'avoir ce paradoxe. Ouais.
Complètement, complètement. Et la batterie est née du fait que les musiciens qui composaient une fanfare ont dû aller jouer dans des endroits restreints, donc on pouvait plus avoir quatre personnes qui jouaient la grosse caisse, la caisse claire, la charleston, les cymbales. Donc il a fallu réduire tout ça au maximum pour aller jouer sur les bateaux à aubes dans les premiers clubs. Mais est-ce qu'on peut se dire que la batterie n'aurait pu jamais voir le jour si Enfin, voilà, c'est des questions qui sont marrantes, quoi. De se dire maintenant la batterie elle est présente dans tous les styles de musique partout, et elle est née parce qu'il a fallu réduire la fanfare, quoi, en gros. Donc c'est marrant, quoi, l'anecdote. Qu'est-ce qui serait advenu sinon?
J'avais aussi vu cette anecdote que c'était sur les bateaux à aubes, donc dans le sud des États-Unis, en Louisiane notamment, que bah il y avait pas beaucoup de place et qu'il était nécessaire d'enlever des personnes, quoi, et qu'une personne fasse plus d'instruments, et que c'est comme ça qu'on s'est retrouvé assis et qu'on s'est retrouvé à avoir la grosse caisse et les cymbales et la caisse claire Tout
Voilà,
ça
tout à
ensemble.
fait. Je connais la même anecdote que toi, tu vois. Et du coup, il a fallu inventer une pédale pour taper sur la grosse caisse, grosso modo. Donc, il a fallu inventer un pied pour que la cymbale du charlet soit jouée au pied. Enfin, voilà, c'est assez marrant, quoi, de se dire qu'est-ce qui serait advenu s'il n'y avait pas eu les bateaux à aubes? Vers quoi serait allée la musique? Enfin, voilà, je trouve c'est intéressant
Ouais.
comme questionnement.
Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça aussi passionnant et c'est pas quelque chose que qui m'a été enseigné au courant des années. J'ai pas appris ça, le côté historique de la batterie. C'est plus quelque chose que j'ai dû chercher moi-même.
Ça c'est
D'accord.
sûr, oui c'est sûr, c'est pas, on n'en parle pas beaucoup.
Ouais. Et à ton avis, est-ce que aujourd'hui, il peut y avoir encore une révolution dans le monde de la batterie, comme il y a eu une révolution quand on est passé justement quand il y avait l'amplification, c'était plus nécessaire de taper le temps sur toutes les noires. Ensuite, il y a voilà les rythmes binaires. On arrête de faire du jazz, on fait d'autres choses. Il y a eu l'électronique il y a quelques années. Ça, j'imagine que c'était une nouvelle révolution. Est-ce que tu penses qu'il peut encore y avoir une révolution dans le monde de la batterie maintenant?
Bah, il y a des gens qui font avancer encore le vocabulaire, hein, qui le développent, qui trouvent des nouvelles pistes. Une révolution à proprement parler, je sais pas, avec la double pédale, la vitesse, d'aller 3 fois plus vite que maintenant, j'imagine que non. Enfin, s'il y a une révolution, ça sera pas dans la mécanique, on va dire. Enfin, simplement, comme je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui court le 100 mètres en 8 secondes, c'est pas pour demain, quoi. Donc là, la batterie, si on parle de mécanique, de vitesse, de performance, je pense pas que ça puisse changer énormément. Par contre, oui, je pense qu'il peut y avoir des gens qui ont des visions, des sons, du mélange d'électronique, d'acoustique, de, je sais pas, de DJ en même temps, qui ait des instruments. Il y a des batteurs comme Zach Denziger ou Mark Juliana qui ont des triggers sur les tomes qui font qu'ils déclenchent des sons aléatoires et ça crée des sons nouveaux. Ça, je pense qu'il y a encore des révolutions sonores possibles. En termes de mécanique, je dirais que je suis moins persuadé,
Ouais.
mais j'ai peut-être tort, hein.
Oui, je partage tout à fait ton avis et c'est avant que tu le cites, je pensais justement à Giuliana et et il y a quelque chose de différent quoi. Effectivement, il a l'air de pousser dans des pistes différentes, de chercher des sons différents.
C'est les textures qui sont différentes, mais il utilise la grosse caisse, il fait 3 coups, il fait du frisé, il fait de l'indépendance, il fait des plats, il utilise le vocabulaire, on va dire, d'un batteur.
Ouais.
Par contre, c'est très original dans la façon de mélanger les sons, tout ça, mais je veux dire, il n'a pas révolutionné, il n'a pas inventé un nouveau doigté,
Ouais.
parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, depuis qu'on a parlé des moulins, il y a des gens qui les mélangent. Là, j'ai vu des vidéos de Kola Yuta, là, tout à l'heure, j'ai vu un relevé où il joue. Il y a un tempo qui est à 118 ou 120 et il joue des phrases en triple croche surréaliste. Bon, lui, il a révolutionné des trucs. Après, voilà, peut-être qu'un mec ira un peu plus vite un jour, peut-être, mais de là à révolutionner le vocabulaire comme des gens comme Elvin Jones ou Tony Williams ou Steve Gadd ont vraiment révolutionné quelque chose qui n'existait absolument pas, je sais pas, je vois pas ça arriver en tout cas.
Ouais. Et alors pour en revenir à aux pédagogies que tu as écrites, et notamment, alors il y a le drum book qui est déjà disponible depuis un certain temps, et il y a le practice book qui lui va sortir en septembre. Et pour commencer, le drum book, qu'est-ce que c'est comme méthode? Qu'est-ce qui t'a inspiré à l'écrire? Pourquoi tu as écrit cette méthode en fait?
Ça fait un paquet d'années que j'enseigne, donc depuis 91, et j'avais des centaines de feuilles volantes d'exercices que je peaufinais à chaque fois. Des indépendances, j'écrivais des exercices en partant de principes, je développais d'autres principes. Et puis plusieurs fois on m'a dit, ah, il faudrait que tu écrives un bouquin, c'est quand même intéressant, c'est intéressant ta façon de voir les choses, les principes des concepts, la façon d'expliquer les choses, on va dire. Si le drum book, il a une originalité, c'est dans la façon de présenter les exercices, de présenter les concepts, de présenter la polyrythmie, la technique, l'indépendance, c'est dans la manière d'en parler. Donc après, je me suis dit, bon, je vais peut-être, je me sens pas quand même, c'est pas évident. Puis Didier Ottaviani m'a dit, moi je t'aide à le faire, je trouve que c'est important de le faire, il n'y a pas de bouquin comme ça, et il faut vraiment faire quelque chose, c'est intéressant. Donc on s'est lancé, on l'a fait, comme on en parlait tout à l'heure. Quand tu fais quelque chose, par essence, tu le fais toujours du mieux que tu peux. Sinon, c'est un peu perdu d'avance. Donc quand tu es passionné comme on l'est, on a fait du mieux qu'on a pu. Au niveau de la matière, bien évidemment, mais au niveau de la mise en page, on a fait un site avec des centaines de vidéos pour illustrer le bouquin, les passages qui sont un peu trop abstraits, avec une vidéo qui illustre les choses musicalement, ben, c'est beaucoup plus clair que simplement du blabla. Donc on a fait pour le mieux et on a eu des retours vraiment super en disant ah ben oui, c'est la façon d'expliquer des choses compliquées, c'est super, vraiment la polyrythmie, c'est intéressant. Voilà, donc ça c'était l'aspect drum book. Et le practice book, c'est plus de la mécanique, on va dire ça, comme c'est un peu, on pourrait dire un stick control, mais avec les pieds qui font des indépendances, qui remplissent, qui jouent ce que joue la main droite. C'est plus un objet de mécanique qui est beaucoup moins gros que le drum book. Le drum book fait 300 et quelques pages, le practice book en fait 68. Et c'est le genre de cahier qu'on peut toujours avoir dans son petit sac. Et quand on sait pas trop quoi bosser, bon, on se fait une demi-heure de drum book, de practice book déjà, et puis après, boum, on attaque, on continue, quoi.
Ok, c'est super parce que le stick control, bon bah c'est juste une légende, c'est une référence, voilà. Et pour le contrôle des le jeu des doigts, des poignets, etc. Tout ce qui va être aux mains, il y a énormément de ressources, énormément de choses. Et maintenant il y en a de plus en plus pour avec la comment dire la popularité de la double pédale, il y a de plus en plus de choses pour les pieds aussi. Mais c'est quelque chose qu'on trouve quand même moins, notamment pour la position. C'est-à-dire que pour les mains, le free stroke, etc. J'ai re-regardé il y a récemment le DVD de Jojo Meyer. Et je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est le DVD pour. Il en a fait un pour les mains, un pour les pieds. C'est celui pour les mains.
Secret weapon for the modern drummer.
Exactement, c'est ça. Et il est
Secret
juste.
weapon.
Ouais, Secret Weapons for the Modern Drummer. Et il est juste, mais fantastique. Il présente des exercices dedans, je les ai refaits, et j'avais des petits problèmes sur ma main faible de tenue de la baguette. Enfin, en une semaine, en faisant les exercices qu'il a fait juste 10 minutes par jour, c'était bon, quoi, c'était réglé. Et vraiment, c'est juste fantastique. Et on a de plus en plus de choses pour les pieds, mais c'est toujours quelque chose que je trouve qui manque un petit peu. Peut-être que j'ai l'impression qu'il y a une méthode qui me manquait, qui réunirait les deux, le côté mécanique pour les deux, le côté technique. Et bah du coup, j'ai vraiment hâte d'avoir Practice Book entre les mains parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que moi personnellement j'attendais depuis longtemps, chercher quelque chose comme ça.
Après le practice book, il parle pas trop de comment jouer les pieds. Il les note, ils sont utilisés avec les mains en contrepoint, en indépendance, mais il parle pas de la technique des pieds, au sens comment se positionner sur la pédale, tout ça. Par contre, ça fait travailler les pieds dans toutes les positions possibles et imaginables
Ouais.
au niveau. Mais par contre, moi je conseille de regarder pour les mains, je conseille de regarder la vidéo de Jojo Meyer et pour les pieds aussi. C'est vraiment ce qui s'est fait de mieux jusqu'à présent au niveau d'explication des positions, quoi. Moi, je parle pas des positions. Ça a été très bien fait par Jojo Meyer. Par contre, voilà, quand tu travailles le practice book, je pense qu'au niveau indépendance, coordination, ou mettre ses pieds au milieu des mains, percevoir les débits et pouvoir avoir une coordination plus fluide, ça, je pense que ça fait vraiment avancer les choses. Ça, c'est clair.
Ah bah oui, bah oui, carrément. Et alors, autant le drum book que le practice book, c'est destiné à quel public? Un débutant peut y aller? C'est plutôt pour des intermédiaires ou?
Alors je dirais que l'un comme l'autre, ça peut être entre guillemets débutant débutant qui n'a jamais touché la batterie, je pense pas, parce que ça commence directement par des choses un peu plus compliquées. Par contre, entre guillemets un débutant, on va appeler ça un intermédiaire, alors avec un prof sans problème, et après plutôt intermédiaire avancé. Voilà, c'est pas vraiment débutant, mais je le savais en le faisant, hein, c'est. J'ai pas encore franchi le cap d'essayer de faire un bouquin débutant. Je trouve que c'est le plus dur
Ah
parce
oui?
que voilà, c'est difficile de donner des règles universelles alors que l'expérience de professeur fait dire que ben il y a rien d'universel pour les débutants, quoi. C'est vraiment au cas par cas, en fonction des gens, en fonction de chacun. Il y a vraiment aucune règle. Alors que quelqu'un, quand on parle de groupe de notes, de polyrythmie, d'accentuation, d'indépendance, là chacun peut y trouver sa voie dans les exercices. Mais débutant, je trouve ça tellement dur que pour le moment, je ne me suis pas encore attaqué à ça. Je peux le faire, je peux donner des conseils à quelqu'un si je l'ai devant moi. Donc je vois, je l'écoute jouer, je le regarde, on discute, je lui propose des exos selon comment il réagit, j'adapte. Mais de là en tirer des règles qui me sembleraient universelles, c'est difficile. Autant je pourrais peut-être le faire en vidéo, proposer des exercices en vidéo un peu passe-partout. Mais sur le papier, je trouve que c'est difficile de faire un truc universel, à part ce qui a déjà été fait, à savoir le frisé, du roulé, les accents, enfin, des choses qui ont déjà été très bien faites, on va dire. Mais essayer de faire un bouquin débutant un peu original, là, J'ai pas les ressources pour m'y frotter hein, au jour
Ouais.
d'aujourd'hui.
D'accord. Et pour le drumbook, il y a un site officiel et sur lequel il y a des vidéos justement, avec des relevés
Tout à
aussi.
fait.
Et alors, est-ce que tu n'aurais pas, enfin, peut-être que c'est la prochaine étape, est-ce que c'est pas quelque chose que tu aimerais faire justement plus dans la vidéo et contrairement à vendre un support papier uniquement, vendre un support plus numérique dans lequel il y aurait des PDF et aussi des vidéos explicatives où peut-être tu arriverais à mieux communiquer avec des débutants?
Pourquoi pas? Ça peut être une piste. Là, j'ai voulu quand même. L'idée, c'est de faire un bouquin papier et de l'illustrer plutôt que de faire un DVD avec, qui était quand même un autre coup, de faire plutôt un site. Donc, on a fait des vidéos, on a filmé avec du bon son, on a fait attention et les vidéos sont disponibles sur un site via un code pour ceux qui ont acheté le bouquin. Donc, ça, c'était l'étape que je trouvais un bon intermédiaire entre faire un DVD. Mais pour moi, les débutants, il y a vraiment ce côté, il faut que je vois quoi, il faut que je sois avec la personne presque. J'ai encore un peu ce truc-là. Je me dis, il faut même en cours, de toute manière, de manière générale, c'est ce qui fait peut-être ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on me dise, je trouve toujours les bonnes solutions, c'est mais quand j'ai les gens devant moi. Donc quand j'essaie de pondre des choses qui sont entre guillemets généralistes. Je mets quand même des pointillés, quoi. Je sais par essence que ça s'applique pas à tout le monde.
Ouais. Et quand tu es au MAI et aux autres écoles, ça t'arrive souvent d'avoir des débutants dans ces écoles-là?
Non, aucun.
C'est que des intermédiaires ou avancés là.
Oui, c'est que des gens qui jouent déjà, on va dire. Après, qui jouent déjà de l'instrument. Après, qui jouent peut-être qu'un style, qui ont des lacunes, qui jouent déjà. Des débutants, pour moi, quand je dis débutant, c'est quelqu'un qui débute la batterie, quoi.
Ouais,
Qui
ouais,
arrive
qui
pas à
débute.
faire huit croches, qui commence quoi.
Ouais.
Ça c'est vraiment particulier. Il faut être. J'ai donné beaucoup de cours à des débutants il y a quelques années, maintenant un peu moins, on va dire. Mais c'est vraiment c'est un grand défi quoi, donner cours à des débutants.
D'accord. Et juste avant de finir, dis-moi, c'est quoi ton dernier coup de cœur musical ou autre d'ailleurs? Peut-être que c'est pas musical, mais un film qui t'a inspiré ou quelque chose. Quel est ton dernier coup de cœur?
Qu'est-ce que j'ai vu ou lu?
Le practice book.
Qu'est-ce que j'ai vu récemment ou entendu? J'écoute pas mal de musique classique en ce moment. J'en ai dans le téléphone. Je me passe pas mal de musique classique. Un de mes gros coups de cœur, ça a quand même été ces derniers temps Marc Juliana en tant que batteur. Après, en termes de ce que j'ai vu, j'ai bien aimé les deux séries là où il y avait pas mal de musique dedans, à savoir Empire et Vinyl. J'ai suivi un peu les deux séries là. Donc Empire, c'est une série sur le rap, c'est une fiction sur un producteur de rap. Et Vinyl, c'est un peu la musique des années 60, 70.
Ouais.
Tremé aussi, la série Tremé sur la Nouvelle-Orléans, qui était super, qui était sur la reconstruction de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Donc, c'était une série où il y a beaucoup de musique, beaucoup de percussions, beaucoup de jazz dans l'esprit Nouvelle-Orléans, quoi. J'aime beaucoup Kendrick Lamar aussi, dans les rappeurs, dans les sonorités. Je trouve que c'est vraiment super. Gilad Axelman, j'écoute beaucoup aussi. Voilà quoi, mes derniers coups de cœur.
D'accord. Et tu as eu deux références là au rap. Tu écoutes beaucoup de rap?
J'ai des enfants en fait qui en écoutent pas mal et du coup qui m'ont converti à écouter de ce genre de choses. Et puis le nouvel album d'Éric Lénini, là, je dirais pas rap, mais il y a des influences un peu hip-hop. Et comme on fait souvent avec Éric, avant d'enregistrer, 5 6 mois avant, il m'envoie une playlist des artistes qu'il aime bien dans l'esprit. On l'avait fait pareil pour les trucs afrobeat, pour les trucs soul des années 70, pour les trucs jazz. Souvent il m'envoie une playlist de plusieurs mégas, plusieurs gigas de musique avec 200 300 albums dedans. Plutôt que de me dire travaille ça, il me fait goûter des trucs dans l'esprit de ce qu'on va faire. Et après moi j'écoute ça, j'écoute les sons, comment c'est utilisé, la caisse claire, le placement. Donc j'écoute ça, puis je transcris, je fais des relevés, je joue les grooves. Et là voilà, ça m'a amené à écouter des certains types d'artistes. Et mes filles m'ont dit ah oui mais celui-là on connaît papa, tiens il faut que t'écoutes ça, il faut que t'écoutes ça, puis ça, puis ça.
Génial.
Voilà et du coup. Du coup, ça m'ouvre des portes sur des trucs que je connais, qui sont plus underground, quoi, qu'on n'entend pas ici sur les radios, que du coup, voilà, je découvre, et puis quand ça m'intéresse, le son, ben, je relève, et puis j'essaie de travailler des grooves dans l'esprit, voilà.
Très bien. Je mettrai un lien pour les auditeurs, hein. Il y aura des liens dans l'article, sur le blog. Et du coup, il y aura tous les liens là-dessus pour les différentes références qu'on a citées. Et aussi, est-ce que, pour ceux qui veulent te suivre, quel lien est-ce que je ferais bien de mettre plutôt ton Facebook ou plutôt le site officiel, les deux ou...
Ouais, le Facebook. J'ai pas de, le site, je suis plus très à jour là. Avec les bouquins et tout, je me suis concentré sur ça, sur le Facebook en ce moment. J'essaie de mettre des infos sur Facebook. J'ai pas, le site est plus très à jour. Il y a le site du bouquin qui marche bien, il y a les vidéos, mais au niveau du planning, à une période, je mettais mon planning sur le site, mais là, j'ai lâché un peu l'affaire.
D'accord, très bien. Donc plutôt sur Facebook, voilà, pour ton actualité. Et si on veut acheter tes livres, où est-ce qu'on va?
www.librairiedelaroque.com. Okay. C'est le seul site où on peut trouver le drumbook et le practice book en septembre, Librairie de la Rock.
Ok, super. Bah pareil, je mettrai un lien pour les personnes qui sont intéressées par ça. Et de toute façon, en te suivant sur Facebook, j'imagine que qu'on saura, qu'on sera informé de la sortie du practice book.
Ah oui, je vais vous harceler quand ça va sortir.
Yes, ça marche. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton partage. Et,
pas de problème, avec grand plaisir.
Yes, super. Bah à bientôt.
À bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.